C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Parlons de l'Ukraine. Un des buts de Vladimir Poutine en envahissant l'Ukraine, c'était d'affaiblir l'OTAN, le traité militaire mené par les États-Unis, dont le Canada fait partie, et auquel l'Ukraine voulait se joindre, ce qui irritait considérablement Moscou. Ben, c'est raté parce que la Suède et la Finlande, là, qui vivent à l'ombre du géant russe à l'ouest, deux pays historiquement qu'on dit non alignés, et eh bien, ils veulent se joindre à l'OTAN. Finlandais et Suédois ont confirmé cette ambition là en fin de semaine. Évidemment, faire partie de l'OTAN, ça a des avantages certains. Attaquer un pays membre de l'OTAN, c'est s'attaquer à tous les pays membres de l'OTAN. Disons que c'est une force de dissuasion assez intéressante. On va parler de tout ça avec la professeure Chiara Ruffa de l'Université suédoise de la Défense qui est au bout du fil. Professeure Ruffa, bonjour.
Bonjour à vous et merci beaucoup de l'invitation.
Ben, merci réciproquement. D'abord, expliquez à nos auditeurs à quel point la Suède et la Finlande qui veulent rejoindre l'OTAN, c'est une rupture historique avec des positions traditionnelles très fortes.
Oui, il s'agit d'une rupture historique qui s'est passée de façon très vite, donc vraiment dans l'espace de 2-3 mois, je dirais, à partir de l'invasion de l'Ukraine de la part de la Russie. Donc on s'attendait pas ça. Je dois dire que d'une façon occasionnelle, en 2014, en 2008, on a un peu parlé en Suède et aussi en Finlande de la possibilité de devenir membre de l'OTAN. Mais cette décision, effectivement, de postuler pour devenir membre a quelque chose d'historique, s'est passé très vitement et ça rentre à quelque chose qu'on s'attendait pas. Mais je dirais que les deux pays n'avaient plus beaucoup d'autres options que de demander devenir membre de l'OTAN.
Pourquoi vous dites que les deux pays, la Suède et la Finlande, n'avaient plus beaucoup d'autres options que de demander l'adhésion à l'OTAN?
Ouais, parce que je dirais l'approche de Poutine a changé énormément d'une façon assez linéaire, de façon incrémentale, mais dans les derniers 6 mois, mais en particulier dans les derniers 2-3 mois, tandis que avant, Poutine disait je ne désire pas que la Finlande et la Suède deviennent membres de l'OTAN. Après, à partir d'il y a 2-3 mois, il a commencé à dire je ne veux absolument pas que la Suède et la Finlande deviennent membres de l'OTAN. Et aussi, ça a été quelque chose en fait que Sauli Niinistö, le président du Finlande, a dit il y a 2 jours. Donc il y a quand même une posture de la part de la Russie qui a changé énormément envers les deux pays scandinaves.
Mais professeur Ruffa, dans le fond, les Finlandais et les Suédois ont peur de devenir les Ukrainiens de demain ou après-demain.
Oui, ça c'est vrai, mais en même temps, je dois vous rappeler que de se détacher de cette identité d'être non aligné est quelque chose vraiment d'historique. Là, en Suède en particulier, un peu moins en Finlande. Les Finlandais sont beaucoup plus pragmatiques, donc comme vous disiez, la peur de devenir les prochains Ukrainiens est forte, mais en Suède, l'attachement à la politique de non-alignement est vraiment très, très fort. Donc, ça coûte très cher pour les Suédois de se détacher de tout ça. La politique de non-alignement a été perçue comme une histoire de grand succès, un peu comme la clé, en fait, du succès suédois après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, se détacher de tout ça est perçu comme quelque chose de vraiment historique.
Est-ce que le public suédois appuie la décision là, de son gouvernement de tenter de joindre l'OTAN? Est-ce qu'il y a une grande adhésion populaire?
Par rapport à la Finlande, il y a quand même moins d'adhésion populaire et il y a une certaine partie du débat, en particulier deux partis politiques, le parti des Verts, des environnementalistes, et le parti de la gauche, qui est en ce moment encore partie de la coalition du gouvernement, qui se sont dit contraires. Mais par rapport à, disons que le public supporte la décision, mais il ne s'agit pas quand même de nombre que l'on voit en Finlande. Il s'agit quand même d'un attachement, je crois, à la politique de non-alignement beaucoup plus forte pour des raisons historiques aussi.
Est-ce qu'il y a des risques pour la Suède à se joindre à l'OTAN?
Pas vraiment des risques. Comme vous disiez avant, je pense qu'il y a surtout des opportunités et surtout au niveau sécuritaire. En certains moments, je pense que les Suédois, surtout le ministre de la Défense, Hultqvist, s'est un peu rendu compte qu'on ne pouvait plus continuer avec cette idée qu'on pouvait coopérer avec tout le monde en espérant d'être supporté. À un certain moment, les Suédois se sont un peu rendu compte que pour être supporté, comme vous disiez auparavant, il faut être partie de quelque chose. À niveau des risques, il y a un peu les risques qui sont partagés avec la Finlande, c'est-à-dire le risque d'une militarisation de la mer Baltique, le risque d'avoir des bases militaires. Poutine a fait un discours cet après-midi en disant que il ne veut absolument pas que la fête de la Finlande ne représenterait pas un risque imminent pour la Russie, mais dans la mesure où il n'y a pas des bases militaires. Et en ce moment, la Suède est en train de dire on joint volontiers l'OTAN, mais à deux conditions. La première condition, de ne pas avoir des armes nucléaires dans notre pays. La deuxième est de ne pas avoir des bases militaires. Donc, on va un peu voir comment ça va se développer. Mais c'était un peu ça le contenu de base du discours que la première ministre Magdalena Andersson a fait quand elle a déclaré l'intention de la Suède de joindre l'OTAN.
Professeur Ruffa, vous êtes une spécialiste de la guerre à l'Université suédoise de la Défense. Vous connaissez bien l'armée suédoise. Dites-moi, l'armée russe a de la misère à se battre avec l'armée ukrainienne qui est extrêmement acharnée. Est-ce que l'armée russe aurait les mêmes difficultés que l'armée suédoise?
Il est très difficile de dire, mais je pense que l'armée russe aurait quand même moins de difficultés avec l'armée suédoise. L'armée suédoise est quand même une armée plutôt bien entraînée, mais très petite. C'est un petit pays qui a un officer corps, donc des officiers très bien préparés, mais il s'agit quand même d'une toute petite armée dans un très grand pays. Donc, je ne s'agirait quand même pas du même type de confrontation, et c'est aussi à cause de ceci qu'il est très important pour la Suède de joindre l'OTAN.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Chiara Ruffa. Merci, c'est très apprécié.
Merci à vous de l'invitation.
Salut. C'était Chiara Ruffa, qui est une spécialiste des affaires militaires rattachée à l'Université suédoise de la Défense. Les fusillades à Montréal, vous le savez, c'est presque rendu quotidien. À Laval aussi, c'est un problème. On l'a vu récemment, là, 3 fusillades en 3 jours qui ont fait 3 victimes. 1 mort, 1 blessé léger et 1 blessé grave. Ça se tire souvent dessus, là, sans égard aux passants, aux résidents des quartiers, même quand les enfants jouent à proximité. Les gouvernements s'attaquent au problème, consacrent des millions à des escouades spécialisées qui font du renseignement, des enquêtes, des saisies aussi. Est-ce que c'est suffisant? Le temps va le dire, mais il y a aussi un élément dont il faudrait parler, c'est celle des peines de prison pour possession d'armes prohibées. On en parle avec quelqu'un qui s'y connaît, c'est le procureur de la Couronne, Éric Poudrier, qui a fait plusieurs causes d'accusés qui ont utilisé ou ont eu en leur possession des armes prohibées ces dernières années. Maître Poudrier, bonjour!
Bonjour, M. Lagacé.
Écoutez, la semaine passée, là, dans la cause d'un accusé pour qui vous réclamez 9 ans de prison, vous avez dit ceci à la juge, là, aux représentations sur sentence. On est face à un cas qui clairement mérite une sentence, je dirais pas exemplaire, mais qui reflète ce qui se passe. Et toujours en parlant à la juge, vous avez dit, vous devez vous adapter au changement de la société. Est-ce que les juges sont en phase avec la société, vous trouvez?
Je vous dirais, M. Lagacé, de plus en plus. En fait, là, il faudrait rester sur une autre planète pour pas constater ce qui se passe dans les différentes rues, comme vous l'avez dit, plus particulièrement dans les environs de Montréal. Il faudrait vraiment là être ailleurs pour pas être au fait de ce qui se passe. Donc oui, les juges sont conscients. Oui, les juges portent une attention de plus en plus importante. Alors, sans rentrer dans les détails de ce qui s'est passé la semaine dernière dans le dossier que je pilote parce qu'il n'est pas terminé, donc j'irai pas dans les détails, vous comprendrez. Un juge, lorsqu'il doit se pencher sur une peine, il doit l'individualiser, c'est certain. Il doit également regarder la proportionnalité de la gravité du crime. Et avec ce qui se passe à Montréal et Laval, comme vous l'avez mentionné, il est difficile de passer le tout sous silence.
Présentement, là, il y a une prolifération d'armes à feu, il y a une prolifération des événements où on décharge des armes à feu. Est-ce que vous pensez que les gens des milieux criminalisés ont suffisamment peur de la justice quand ils se promènent avec une arme?
C'est une très bonne question. En fait, moi, le problème que vous soulevez, ou en tout cas ce que vous mentionnez, je le vois pas de cette façon-là personnellement. Moi, je regarde, lorsque j'ai analysé un dossier, c'est qui l'individu? C'est quoi les faits qui sont en cause? Est-ce que la personne a suffisamment peur par rapport à la peine, par rapport à ce que la police va faire comme répression? C'est une bonne question. Puis, je pense qu'on n'aura jamais cette réponse-là parce qu'il n'y a personne qui va venir nous le dire. Mais c'est pas cette façon-là qu'on attaque nos dossiers, nous, de toute façon, à notre niveau. C'est ce que je pourrais vous dire par rapport à la question que vous me posez.
Il y a quelques années, la Cour suprême a invalidé des clauses, des dispositions du Code criminel qui imposaient des peines automatiques si on était pris en possession d'une arme prohibée. Donc, la Cour suprême a dit que ça allait trop loin. Paradoxalement, pensez-vous que ça aidait le travail des policiers dans la répression? Moi, ce que les policiers me disent, c'est qu'à l'époque, il y a des gens qui voulaient pas se promener avec une arme parce que c'était automatique la peine de prison.
Ben, je vous dirais que présentement, aujourd'hui, quelqu'un qui se promène avec une arme prohibée fait face à une peine de prison importante. Donc, oui, à l'époque, en 2015, jusqu'en 2015, il y avait une peine minimale associée avec une personne qui avait en sa possession une arme à feu prohibée ou autorisation restreinte chargée. C'est vrai. Mais ça n'enlève pas l'analyse qui doit être faite au moment où la peine doit être imposée. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a plus cette peine minimale-là qui est codifiée, que les peines ne sont pas moins sévères. Ça laisse une latitude aux magistrats d'évaluer les circonstances liées à l'individu et qu'on retrouve au code criminel là, qui doivent sous-peser avant d'imposer une peine. Moi, je répondrai à votre question comme de cette façon-là. Je ne crois pas à notre niveau que le fait qu'il n'y ait plus de peine minimale empêche quoi que ce soit sur les représentations qu'on a à faire.
OK, Maître Poudrier, vous êtes, je le mets en guillemets, là, spécialisé dans les cas de possession d'armes à feu. Vous êtes aussi spécialisé dans les causes de gangs de rue. Qu'est-ce qui vous frappe particulièrement dans les causes présentement que vous avez à traiter qui impliquent possession d'armes à feu et décharge d'armes à feu?
Moi, je crois, M. Lagacé, là, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'impulsivité des événements et la quantité qui est incroyable. Une recrudescence qu'on peut noter, qui est quantifiable. Vous savez, M. Lagacé, je travaille pas tout seul, puis on travaille en partenariat avec différents corps de police, et on peut voir une gradation dans les événements. Ce que je veux dire par là, c'est que si je vous donnais quelques exemples, en 2020, et là, c'est un policier qui nous fait cette analyse-là, en 2020, on a recensé 116 événements, 411 douilles éjectées. En 2021, 152 événements, 734 douilles retrouvées. Et juste pour vous donner une idée, là, on est en 2022, évidemment, et le tableau qui a commencé à être rédigé, confectionné, est en date du 30 avril 2022, et on a déjà noté 53 incidents et 194 événements là, de déchargement. C'est 32 événements de plus que l'année passée. Et dans ce que je viens de vous dire là, ça ne comprend pas ce qui s'est passé la semaine passée.
On est vraiment dans une courbe ascendante des événements d'armes à feu à Montréal.
Je suis d'accord avec vous.
Est-ce que la justice peut faire la job seule pour, disons, freiner cette courbe ascendante?
Ça va prendre l'ensemble des partenaires, M. Lagacé. On ne pourra pas à une seule entité régler un problème qui grandit, et là, je viens de vous le mentionner, là, d'année en année. C'est un ensemble d'entités, c'est un ensemble de personnes qui vont se mettre ensemble en partenariat, que ce soit des gens du communautaire, les policiers, les procureurs. Bref, tout le monde est interpellé dans ce qui se passe présentement et tout le monde devra mettre la main à la porte, mais ce n'est pas qu'une seule entité qui pourra, je crois, régler le problème.
Le profil type des dossiers que vous portez à la Cour, Maître Poudrier, là, comme procureur de la Couronne, profil type des gens qui sont arrêtés avec une arme et qui ont tiré, c'est quoi? Sont jeunes, sont vieux, qui sont-ils?
Vous avez nommé toutes les possibilités. En fait, l'accessibilité maintenant à une arme à feu est rendue tellement facile que n'importe qui, je vais le mettre entre guillemets, là, mais n'importe qui peut se procurer une arme à feu de façon très, très aisée. Alors, moi, je crois qu'on ne peut pas identifier spécifiquement un type d'individu ou un groupe d'individus. L'accessibilité aux armes à feu est telle que tout le monde peut s'en procurer une.
C'est inquiétant.
C'est inquiétant.
Maître Poudrier, merci d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée à vous.
Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
Bon, Michèle Galipeau est vérificatrice générale de Montréal. Elle a déposé cette semaine son rapport annuel. On le sait, c'est un exercice d'analyse, un rapport de VG, de reddition de compte. On montre ce qui marche moins bien dans une administration et la vérificatrice générale Galipeau a mis sa loupe sur, disons, des problèmes de gestion à la Ville de Montréal. Madame Galipeau, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
OK, d'abord, ça frappe l'imaginaire. Je veux que vous parliez aux gens qui nous écoutent du fait qu'il y a beaucoup d'arbres plantés par la Ville de Montréal qui meurent parce que la Ville ne les arrose pas suffisamment.
En fait, la Ville a adopté en 2005 une politique de l'arbre et elle avait indiqué dans sa politique de l'arbre qu'elle ferait un plan d'entretien. Par rapport à tout ça en 2008. Et ces plans-là, les plans arboricoles, n'ont pas été mis en place. Alors, ce qui fait qu'il y a des pratiques différentes selon les arrondissements. Et effectivement, si vous voyez dans l'ensemble du rapport, vous avez, on disait, pour 100 000 arbres, au total, à la fin, quand on a les maladies et les abattages, à peu près 30 % restent en place.
Mais il me semble avoir lu qu'il y avait un problème d'arrosage, non?
Mais en fait, on a regardé au niveau des arrangages, effectivement, c'est différent pour les jeunes arbres. Au bout de la quatrième année, il y a des différences par rapport aux différents endroits, mais ça vient dans l'entretien global. Quand on n'a pas le plan arboricole, on n'a pas l'ensemble et la vue de tout ce qu'on doit faire et à quelle fréquence et comment le faire.
Si la Ville n'a pas de plan arboricole, est-ce que la Ville sait combien elle a d'arbres dans sa forêt urbaine?
Non, elle n'a pas l'entièreté, elle n'a pas la globalité de ce qu'elle a comme arbre sur sa forêt urbaine, effectivement.
Okay. Je rebondis là-dessus parce que là, vous vous êtes penché aussi sur le plan d'action montréalais en itinérance, le PAMI, si je me trompe pas. Et ça, bon, c'est évidemment là pour encadrer les sans-abri, alléger la difficulté qu'ils ont à vivre en ville. Et encore là, ce que vous constatez, c'est que la ville n'a pas de plan d'ensemble.
En fait, elle a un plan d'ensemble. Ce qu'on constate, c'est plutôt les indicateurs, en fait, la mesure. Ça ne lui permet pas de valider si c'est efficace, puis ça permet d'obtenir les bénéfices attendus. Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a des mesures, mais les mesures et les données sont pas nécessairement comparatives et ça ne permet pas d'avoir tous les indicateurs d'impact qui permettent de savoir est-ce que vraiment on a amélioré la situation en termes d'itinérance.
Donnez-moi un exemple de ce que serait un indicateur d'impact.
Mais par exemple, je vous donne, on a plusieurs exemples dans le rapport. On donne, par exemple, à un moment donné, des rencontres avec le SPVM et les organismes. Alors, on dit, ben, ce qu'on met comme indicateur, c'est un rapport. Mais ça m'indique pas que ça s'est amélioré. Est-ce qu'on a fait plus de rencontres, moins de rencontres? Un impact, ce serait le nombre de rencontres qu'on a fait, puis combien qu'on en améliore. La même chose au niveau des itinérants au niveau de l'hiver, on fait un plan. Mais le plan m'indique pas, est-ce qu'il y a plus d'itinérants qui sont dans les abris? Est-ce qu'on a plus d'abris pour accueillir les itinérants? On l'a pas. Donc, ce qu'on voudrait voir, c'est plutôt de dire quelle est la mesure. On a-tu amélioré? Est-ce qu'on a moins d'itinérants qui sont dans les rues dans les périodes de froid intense?
Il me semble que ce que vous avez constaté à propos des sans-abri et de la Ville de Montréal, là, ça rejoint ce que l'Ombudsman, la dame là, qui occupe ce poste-là, disait il y a quelques semaines, crise humanitaire et la Ville, tu sais, on comprend là, que c'est complexe, le problème de l'itinérance, mais l'hiver, ça arrive à peu près à la même date tous les années, mais la Ville est toujours en mode urgence.
En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on reconnaît que les efforts sont louables. La Ville a fait beaucoup plusieurs efforts. Mmh. Par contre, c'est que comment elle le mesure, ce qu'on dit, c'est vous dites une petite mesure ne vous permet pas nécessairement de voir si ça s'est vraiment amélioré. L'Ombudsman, il faut comprendre qu'elle regarde, elle a une plainte par rapport à un secteur, effectivement, et elle regarde est-ce que ce secteur-là s'est fait, c'est une plainte. Nous, on a regardé vraiment une globalité. Est-ce que ce plan-là, les bénéfices étaient attendus? Est-ce qu'on était capable de le mesurer? Et à la fin, on arrive que non, ça ne nous permet pas parce que ces indicateurs-là ne nous donnent pas vraiment une information aussi pratique, je dirais.
OK. Est-ce qu'il y a des meilleurs indicateurs pour mesurer la congestion en ville à cause des chantiers?
En fait, les chantiers majeurs, je vous dirais, les grands éléments, c'était de voir s'il y avait une vue proactive de l'ensemble des chantiers. Les grands problèmes, c'est la définition des rôles et responsabilités, la communication de tous les projets. On s'aperçoit aussi que il y a eu des axes de mobilité qui ont été indiqués, mais malgré tout, il y a des permis qui sont octroyés par les arrondissements sur ces axes de mobilité ou qui devraient normalement ne pas en avoir seulement pour des éléments d'urgence. Donc, on n'a pas une vision globale et ce qui arrive, c'est qu'on fait une planification, mais comme on ne savait pas que certains autres projets ou certains autres permis sont donnés par les arrondissements, bien, on recommence notre planification puis on livre pas les projets qu'on avait prévus.
C'est quoi un axe de mobilité?
Un axe de mobilité, c'est en fait un axe où, on ne veut limiter les travaux et les entraves. On dit que cet axe-là ne devrait pas avoir de travaux et d'entraves pour permettre aux citoyens d'avoir une bonne mobilité. Alors, c'est un axe où on dit, ben cet axe-là, on n'aura pas de travaux, sauf s'il y a des urgences. Puis là, par rapport à ça, le restant, on peut faire des travaux. Mais cet axe-là, on veut le garder libre. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que malgré qu'on a vraiment établi des axes pour permettre justement aux citoyens de bien mobiliser, là, ce qui est arrivé, c'est que malgré tout, on émet des permis, les arrondissements émet des permis sans que la ville-centre soit au courant.
Votre rapport, Madame la vérificatrice, est très volumineux, là, 400 pages. Là, j'ai isolé là quelques points. Depuis le début de l'entrevue, on a parlé des arbres puis de la forêt urbaine sous la responsabilité de la ville. On a parlé de la responsabilité de la ville en matière de sans-abri, puis on a parlé de la responsabilité de la ville de Montréal en matière de mobilité. Me trompe ou le dénominateur commun de vos constats, c'est qu'ils ont des plans, mais ils n'ont pas tous les indicateurs du plan.
Bien, il y a plusieurs plans. Effectivement, il y a plusieurs éléments, mais c'était différent parce qu'en termes d'itinérance, c'était plus la mesure. En termes de mobilité, je vous dirais que c'est tous les rôles et responsabilités puis d'avoir une vue proactive. Et en termes des arbres, bien, c'est parce qu'on n'a pas livré ce qu'on avait mis dans notre politique. Et à ce moment-là, on a des pratiques différentes. On avait prévu des plans de récolte puis on ne les a pas mis en place.
OK. Vous avez aussi fait une sorte de décompte des recommandations que vous avez faites à la ville depuis quelques années qui n'ont pas été suivies. C'est quoi le pourcentage de ce qui est suivi?
En fait, on est arrivé à 47 % et quand je vous dis 47 % c'est par rapport au, on regarde toujours un suivi par rapport à ce qu'ils ont donné comme échéancier. Donc, l'échéance du plan d'action est à telle date, on fait le suivi et c'est 47 % de ces recommandations-là qui ont été mises en place par rapport à leur date d'échéance. Et celles qui ont été mises en place, 93,7 % ont été mises en place en retard par rapport à la date d'échéance que les unités d'affaires nous avaient fournie.
Comment vous prenez ça?
Mais écoutez, je fais un constat dans le rapport cette année où j'ai trouvé que je trouvais pas que la situation était acceptable. Ça fait 6 ans que l'on fait, je suis en poste et ça fait 6 ans globalement, la plupart des engagements ne sont pas honorés. J'arrive aussi au 31 décembre 2021 avec 75% des recommandations non closes qui ont échu. Donc, j'ai 325 recommandations, mais 75% sont en retard par rapport à la date d'échéance. Et j'ajouterais qu'on a fait un exercice pour regarder celles qui étaient en retard de plus de 5 ans et 87% de ces recommandations-là sont encore valables et datent de rapports qui sont émis avant que je sois en poste entre 2009 et 2015. Donc, je trouve que la situation n'est pas acceptable. Ça fait 5 fois que je recommande de mettre en place des indicateurs pour suivre leurs engagements.
Avez-vous l'impression de vous sentir inutile des fois?
Écoutez, je crois que mon travail est valable et je suis très... on n'émet pas des recommandations par plaisir d'émettre des recommandations. On les met parce qu'on trouve ça pertinent et on trouve ça pertinent de les mettre en place. Et j'aimerais aussi ajouter que tous nos rapports sont discutés avec les unités d'affaires et que aussi toutes les directions nous signent une lettre comme de quoi ils sont en accord avec nos recommandations.
Est-ce que ça prendrait, je ne sais pas, est-ce que ça prendrait une loi, un règlement qui oblige une municipalité comme la Ville de Montréal à s'engager à suivre les recommandations de la VG sous peine de, je ne sais pas, de pénalité?
Il y a une loi qui exige un vérificateur général pour les villes de 100 000 et plus. Je crois que on doit mettre en place des indicateurs, puis on doit indiquer, on doit honorer nos engagements.
Mais on n'est pas obligé.
Bien, écoutez, on fait un engagement. Moi, si je m'engage à vous faire... Je me suis engagée au conseil municipal ce matin de regarder les recommandations qui sont en retard de moins de 5 ans et de revoir tout ça. Et j'ai dit, je m'engage publiquement. Croyez-moi, l'an prochain, au printemps, je vais être là, ça va être fait.
Très intéressant. Merci d'avoir été avec nous, Mme Galipeau.
Ça me fait plaisir, M. Lagacé, puis j'invite tous vos éditeurs à lire notre rapport sur notre site Internet.
Parfait, merci. C'était Michel, vous aussi. Michel Galipeau, vérificatrice générale de Montréal. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'appréhension là, quant à une décision à venir de la Cour suprême. Les États-Unis risquent de reculer l'horloge de 49 ans par rapport au droit à un avortement légal et sécuritaire. L'Espagne, hier, a adopté un projet de loi qui élargit de son côté là, l'accès aux mineurs de plus de 16 ans qui veulent avorter sans autorisation parentale. Et l'autre aspect du projet de loi qui frappe l'imaginaire, c'est l'aspect d'un congé mensuel pour les femmes qui ont des menstruations douloureuses. C'est une première en Europe. On va aller parler de tout ça avec la journaliste indépendante Véronique Voyer. Elle est spécialiste des enjeux féministes et écologiques. Elle habite l'Espagne depuis 2013. Véronique, bonjour.
Bonjour Patrick, ça va bien?
Oui, vous aussi, j'espère. Expliquez-nous comment cheminer dans la société espagnole là, l'idée de donner des congés menstruels aux femmes qui en souffrent.
Ben écoutez, c'est tout nouveau, hein. C'est quelque chose qui est arrivé très très récemment. Mardi, là, ça a été approuvé par le gouvernement. Mais il faut dire que l'Espagne, c'est quand même un pays pionnier là en termes de féminisme. Quand on pense là à la loi sur les violences de genre qui est adoptée en 2004, que le gouvernement y est plus que paritaire. On parle d'un gouvernement de gauche avec à la tête le premier ministre Pedro Sanchez. Ils comptent 14 femmes, puis 9 hommes. Donc voilà, eux pour eux, c'est très important d'avoir en place un ministère de l'égalité. Là. C'est pas juste la condition féminine, c'est d'aller chercher là, au-delà de ça.
Mais cette idée-là, Véronique, de donner un congé menstruel, je sais que ça existe, je pense, si je me trompe pas, là, en Asie, j'ai vu ça. Comment c'est né? Comment ça a cheminé? Est-ce que ça a été adopté dès que ça a été émis sur la place publique? Est-ce qu'il y a eu des réticences? Comment ça s'est passé?
Ben c'est sûr que ça crée une polémique, hein. Même le journal local en Galice où moi j'habite, ça n'a pas été long que le titre dans le journal c'était « Est-ce que la nouvelle loi sur le congé menstruel va être un prétexte pour ne pas aller travailler ?» Fait que imaginez là, c'est sûr que le monde ici en parle beaucoup, mais effectivement là c'est quelque chose qui existe puis qui fait partie de la réalité des femmes. On dit que 15% des femmes qui ont leur menstruation, ben ils souffrent de douleurs invalidantes qui les empêchent de travailler. Fait que le Conseil des ministres, avec Irene Montero, la ministre de l'Égalité, elle a vu ce problème-là, puis elle s'est dit, tiens, on va essayer d'aborder ça dans notre nouvelle loi sur l'avortement. Mais c'est pas juste ce projet-là là, sur les menstruations. Il y a plein d'autres choses. Là. Ils veulent s'assurer que l'éducation sexuelle soit plus présente à l'école. Ils veulent distribuer gratuitement des tampons, des condoms à l'école. Donc, vraiment, là, c'est plus vaste, là, disons.
OK. Juste vider le sujet là, du congé menstruel. Après ça, on parlera des dispositions sur l'éducation sexuelle, par exemple. Est-ce que les femmes qui ont des douleurs menstruelles peuvent juste appeler l'employeur ou ça prend un billet du médecin? Comment ça fonctionne pour s'en prévaloir?
Ben c'est du cas par cas. Là. Moi, j'ai vu des témoignages de femmes, par exemple Irene Aterido, une femme qui souffre de douleurs complètement invalidantes. Puis elle disait, j'allais chez le médecin, puis il me disait prends un ibuprofène. Mais ça a été long pour elle avant de trouver quelqu'un qui lui dise non, c'est pas un ibuprofène que ça te prend. Toi, tu souffres de dysménorrhée, de douleurs qui t'empêchent de parler, qui t'empêchent de travailler. Puis il y a vraiment un tabou lié aux menstruations encore plus dans le monde du travail. Là. Fait que tu sais, elle essayait de cacher la véritable raison pour demander des congés maladie. Puis elle a même fini par perdre sa job, par écouter des collègues de travail dire « Ben voyons, elle est tout le temps malade. » Fait que tu sais, c'est des situations qui sont très, très désagréables. Il y a une autre femme qui témoignait dans les médias dernièrement, elle s'appelle Paloma Delgado. Puis elle expliquait, hey, moi, c'est parce que c'est une fois par mois, je suis pas capable de me tenir debout. Tu sais, j'appelle à la job et je lui dis, écoutez, là, si vous voulez que je rentre, ben je vais m'en venir en rentrant. Fait que, s'il vous plaît, laissez-moi faire du télétravail. Puis elle, dans son cas, ben l'employeur étant un petit peu plus clément, disons, ou plus disposé. Fait que pour éviter que ça soit du cas par cas, ben le gouvernement veut visibiliser ça, parce qu'on ne sait pas exactement c'est combien de personnes qui souffrent de ça. Il n'y a pas de chiffres, ça prend de la recherche pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est ça aussi, ce projet de loi-là, c'est de se donner les outils, introduire des nouvelles idées, des nouveaux concepts comme la santé menstruelle, puis combattre des stéréotypes. T'sais, on pense à une femme a le mal. Ben oui, ben, elle va endurer un peu, ça va passer. Les femmes sont capables d'en prendre. Ben non. Des fois, il faut le dire, là, puis c'est assez. Puis quelqu'un qui a peut-être une douleur au sciatique, ben il va peut-être se donner le droit de dire « Hey, je suis pas capable de bouger, donne-moi congé », puis le médecin va comprendre. Mais si c'est parce que tu as tes règles, ben les règles, c'est pas une maladie, hein. Fait que tu le sais pas vraiment, est-ce que c'est incapacitant ou pas. Il faut vraiment être suivi, puis être suivi par des professionnels de la santé qui contrôlent, qui connaissent ça, là.
Véronique, quand j'ai annoncé le sujet de notre entrevue tantôt, et des gens qui m'ont écrit pour me dire « Ah, ben c'est pas égalitaire, c'est un congé pour les femmes, puis il n'y en a pas pour les gars. » Est-ce que les hommes espagnols ont eu des raisonnements semblables?
Tout à fait. Puis, il y avait ce débat-là, puis les gens disaient « Écoutez, les hommes aussi ont des problèmes au niveau sexuel, s'ils ont, au niveau, disons, des couilles, s'ils ont des problèmes de santé, bien, ils ont le droit à un congé maladie. Mais si les femmes, c'est leurs ovaires, bien, elles aussi ont le droit à un congé maladie. » Mais c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas autant de stigma autour de la santé sexuelle des hommes. Puis, moi, c'est ça que je me demandais. Je disais, hey, on a-tu vraiment besoin de faire de quoi spécifique pour les femmes? Pourquoi ça serait pas congé maladie, point à la ligne? Mais, tu sais, demander à un chef, excuse, j'ai mes règles, faut que je rentre à la maison, ben moi, personnellement, comme femme, j'ai pas mal au ventre. Fait que je le sais que je le ferais pas, mais l'autre à côté, elle peut-tu se le permettre? Elle peut-tu le faire? Fait que le fait que ça soit encadré, ben ça donne une certaine légitimité. Puis il y a du monde qui disait, bon, regardez bien ça, là, la femme, elle va aller prendre un verre de trop, puis le lendemain, elle va appeler, elle va dire, oh, ben j'ai mes règles, je me sens pas bien. Mais non, là, pour encadrer là, ce type d'abus-là qu'il pourrait y avoir, le gouvernement, qu'est-ce qu'il propose? C'est que un an à l'avance, tu as déjà des rendez-vous avec ton médecin pour s'assurer que tu as vraiment un problème qui est incapacitant. Mmh. Puis après ça, dans l'année suivante, ben là, chaque mois, tu communiques avec ton médecin, puis tu as les documents nécessaires avant de prendre congé.
Donc, il ne s'agit pas de juste lever la main puis dire faire semblant qu'on a mal, tout ça est encadré. OK. Je veux qu'on parle du renforcement de l'éducation sexuelle dans ce projet de loi-là. Les Espagnols veulent que ça ressemble à quoi, l'éducation sexuelle à l'école?
Bien, c'est une très bonne question. Le projet, il est encore sous l'état de brouillon, mais ils veulent s'assurer qu'à l'école secondaire, on commence à parler qu'est-ce que c'est l'identité de genre, qu'est-ce que c'est une relation sexuelle consentante, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, le fait que un partenaire retire le condom pendant une relation sexuelle. Parfois, on pense que ça, c'est pas un viol, mais maintenant, de nos jours, là, on commence à nommer ça comme étant un viol ou une agression. Donc, d'essayer de commencer dès l'école secondaire à comprendre ces enjeux-là, puis que ce soit pas juste là une formation une fois de temps en temps là dans les activités parascolaires, là, que ça soit partie, que ça fasse partie du cursus académique. Mais je pourrais pas t'en dire beaucoup plus là-dessus. Là, moi, c'est vraiment le congé menstruel là, sur lequel je me suis renseignée intensément.
OK. On va finir encore une fois sur le congé menstruel. C'est-tu aux frais des employeurs ou c'est aux frais de l'État?
C'est financé intégralement par l'État depuis la première journée. Là. Fait que ça, il n'y a aucun problème du côté des entreprises. C'est pas à eux. Puis, tu sais, en Espagne, on parle d'une précarité au niveau de l'emploi super intense. Fait qu'il y a des syndicats qui disaient attention, des fois, quand tu vas faire un entretien d'embauche, ils demandent aux femmes est-ce que tu penses tomber enceinte, même s'ils ne devraient pas demander ça. Puis là, ils vont demander est-ce que tu as des problèmes sur le plan menstruel, est-ce que tu as des douleurs. Fait que, tu sais, ils disent est-ce que ça va créer un nouveau stigma pour les femmes qui essayent d'avoir accès au marché du travail. Fait que ça, c'est à suivre. Quels pourraient être les inconvénients d'un congé comme ça?
Vraiment intéressant. Bien, merci d'avoir partagé tout ça avec nous, Véronique Voyer.
Ça fait plaisir.
Salut, à la prochaine. Véronique Voyer, journaliste indépendante, spécialiste des enjeux féministes et écologiques. Elle habite l'Espagne depuis 2013.
Je trouve que c'est une très, très bonne idée.
Je ne vais pas te lire ce qui rentre dans ma messagerie.
Je le sais. Mais tu sais, tous ces hommes qui t'écrivent et qui demandent l'égalité, c'est-à-dire eux d'avoir des congés pour d'autres choses, moi, je leur répondrais, je leur dirais, écoutez, si vous voulez être égaux, peut-être que nous, on pourrait juste être plus menstrués, point. Puis tu sais, ça ferait l'affaire. Moi, ça ferait mon affaire. Fait que je suis vraiment désolée, mais si vous ne l'avez pas vécu, vous ne savez pas c'est quoi, venez pas vous plaindre.
Et tu sais, il n'y a pas d'équivalent d'un mâle juste lié à être un homme. Tu comprends? Il y a plein de mots qu'on peut tous avoir. On peut faire des dépressions, pas un mal
avoir
au dos,
oui.
Des tendinites. Ça c'est...
Ça va
des deux côtés. Mais avoir des règles incapacitantes, les hommes en ont pas. Puis si les gens peuvent me signaler un mâle qui est typiquement masculin, qui ferait que à chaque mois, tu aurais besoin de prendre congé, je suis ouvert, écrivez-moi au 98985. Pour l'instant, comme ça, spontanément, j'en vois pas.
Tu sais, si tu me disais, Patrick, tous les hommes, on a des pierres à chaque mois.
Des pierres aux reins.
Des pierres aux reins, là, qui paraît qui est absolument un des problèmes les plus douloureux. Je dirais, OK, ben vous autres aussi, mais tu sais, non, vous n'avez pas accouché, vous ne savez pas c'est quoi être menstrué. Ben, quand je suis pas sûre que vous aimeriez ça, vivre ça. Fait que moi, j'aimerais mieux pas en avoir, mais là, on en a. Fait que c'est peut-être une des façons de soulager notre mal.
Ben, écoute, peut-être que ça viendra ici. Je te dis, je t'annonce tout qu'il va y avoir de la... Je sais pas si on peut qualifier ça de résistance, mais il y aura sûrement, disons, des gens qui vont rechigner.
Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
Non, on n'est pas dans la chronique showbiz, même si c'est un air de jazz. Est-ce que tu reconnais ce musicien, Catherine?
Non, mais pendant une seconde, je me suis dit, coudonc, c'est Omerta.
Ça ressemble à ça?
Ça ressemble à ça.
C'est...
il est bon, ça sonne bien.
MC, oui, t'es d'accord? Ouais.
Je l'ai pas reconnu, mais je pensais que ça allait... La trompette, ça peut sonner mal. Hein?
Oui.
Ça, tu peux rapidement glisser.
Tu maîtrises pas, là.
Mais vraiment, c'est pro ce qu'on entend, là.
Oui.
Ben, il s'agit de Jean-Denis Garon, député de Mirabel pour le Bloc québécois.
Le sosie de Jean-René Dufort.
Qui s'est filmé en train de jouer de la trompette dans son bureau de la Chambre des communes. On va le rejoindre immédiatement. Monsieur le trompettiste, bonjour.
Salut, ça va bien?
Oui, vous n'êtes pas habitué à vous faire appeler comme ça, hein?
Non, c'est très rare, d'autant plus que c'est pas moi qui me suis filmé. Ça, c'est mon attaché de presse qui me voit jouer à tous les jours. Puis ça fait à peu près un mois que le vidéo, puis qui me dit on devrait mettre ça sur les réseaux sociaux, puis aujourd'hui, ben il le fait sans permission. Alors, okay. ça m'amène chez vous.
Vous vous êtes fait tirer l'oreille pendant un mois, pourquoi?
Ben c'est drôle, hein? Tantôt, j'écrivais à ma blonde un texto, puis je dis c'est drôle, hein? Je m'en vais voir Patrick Lagacé pour ma trompette, puis sa réponse, c'était t'as jamais voulu jouer devant personne, puis la première fois que tu le fais, tu te ramasses à la radio, ben je trouvais ça très drôle. Ça fait partie de mon hygiène de vie personnelle. Il y en a qui font du sport, il y en a qui font toutes sortes d'activités. Puis moi, c'est un instrument qui requiert beaucoup de discipline. On peut pas sauter de jour. C'est très musculaire. C'est un instrument qui joue à l'oreille, avec les oreilles. Fait que ça fait partie de ma discipline quotidienne. Mais souvent, je la garde pour moi. Puis Dieu sait que pendant qu'on l'apprend, ça dérange beaucoup de monde. Fait qu'à un moment donné, j'imagine qu'on oublie que ça devient beau.
Mais là, vous en jouez chaque jour à votre bureau. Ben chaque jour où vous êtes là à Ottawa?
Ouais, je l'ai amené à Ottawa. Tu sais, moi, je jouais d'autres instruments avant, je jouais du piano, mais je suis un nouveau politicien, ça date de l'automne dernier. Puis dans mon emploi précédent, moi, je suis prof d'université, ben tu sais, t'es toujours en train de voyager, dans les conférences à gauche puis à droite. Puis à un moment donné, j'ai décidé de changer. Il y a un album de jazz que je trouve qui est un des plus magnifiques au monde. Puis à un moment donné, j'étais assis, puis je me suis dit, c'est Chet Baker qui joue dessus, avec un son absolument fantastique. Puis à un moment donné, je me suis dit, that's the one. Je vais essayer ça. Puis j'ai pas souvenir d'avoir sauté une journée.
Puis votre voisin de bureau, c'est Jacques Gourde, le conservateur. Comment il trouve ça?
Jacques Gourde, je fais beaucoup de blagues avec lui parce que, tu sais, moi j'ai une collection de sourdines. Tu sais, une sourdine, ça change le son de la trompette, ça l'atténue un peu, mais, tu sais, ça le coupe pas tant que ça. Puis, bon, on l'entend dans les corridors, mais tu sais, on s'entend, on joue pas deux heures de temps. Puis Jacques Gourde, on se fait des blagues parce que mon prédécesseur à Mirabel jouait de la guitare sèche.
Okay.
Et Jacques, il est venu me dire, il dit, c'est moins pire que la guitare de l'autre d'avant. Fait que déjà, je pense qu'on a fait un pas dans la bonne direction.
Mais c'est quand même assez fort de la trompette. Est-ce que d'autres collègues députés qui viennent cogner à votre porte pour vous demander d'arrêter?
Non, il y a des gens qui aiment ça, mais tu sais, on apprend. C'est des cuivres, hein? C'est des instruments forts. Ils font du bruit. Il existe toutes sortes de sourdines. Moi, j'ai même une sourdine électronique, hein, que tu peux mettre avec des écouteurs. Tu sais, il y a toujours la question de l'heure du jour, l'heure de la nuit. Puis, tu sais, c'est très musculaire. Hein. Ça prend des années à former les muscles pour être capable de jouer des cuivres. Et des fois, 5 minutes, ça suffit. Il faut juste toujours en faire un peu. Fait que c'est une question de jugement comme tout le reste. Hein.
Mais fait deux fois que vous me dites que c'est très musculaire de la trompette. Quel muscle travaille?
Ben, c'est tous les muscles des joues, les muscles du menton. Tu sais, les enfants apprennent ça là souvent. C'est rare les adultes qui prennent le temps d'apprendre des instruments.
Oui, c'est vrai.
Puis ça prend souvent des années juste pour être capable de faire 3, 4, 5 notes. Parce que c'est vraiment, tu sais, tu buzzes avec ta bouche. Hein? Tu sais pas comme quand tu souffles dans une flûte. Hein? C'est tout le son provient de tout le son provient du corps humain. Ça prend du temps. Puis à un moment donné, ben on en vient qu'à être capable de jouer assez fort. Puis je les dérange en chambre, je les dérange dans les corridors.
OK. Parlons un peu du fond des choses, tant que vous êtes là, M. Garon. Écoutez, vous êtes économiste de formation et il y a le candidat Pierre Poilievre du Parti conservateur qui a plusieurs idées, on va dire, bien en dehors de la boîte par rapport à la finance, par rapport à l'économie, par rapport à la monnaie. Et il suggère, lui, de mettre à mal l'indépendance du gouverneur de la Banque du Canada, même de le congédier. Ce qui serait, là, disons, assez atypique en politique canadienne. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là?
Bien, si vous essayez de chercher un économiste, puis un économiste sérieux qui va vous dire qu'il faut remettre en cause l'indépendance de la Banque du Canada, bien, vous allez avoir bien de la misère. Ça n'existe pas. La politique monétaire, elle est indépendante parce que, tu sais, on cible l'inflation. On la cible à 2 %. Il faut absolument qu'elle soit indépendante du politique. C'est fondamental. Ça dit, tu sais, la Banque du Canada, c'est pas juste un électron libre. Il y a une politique qui définit le mandat de la Banque du Canada. Cette politique-là, elle est adoptée par la Chambre des communes, mais c'est une très, très mauvaise idée. Puis moi, je pense que l'inflation, elle est élevée. Il y a beaucoup de circonstances géopolitiques derrière la guerre en Ukraine, etc. On les connaît. Et il faut pas faire du populisme, induire les gens en erreur là-dessus. L'inflation, elle touche les gens au quotidien, c'est réel, c'est dans notre épicerie. Il faut qu'il y ait des mesures, t'sais. Des mesures ciblées pour être ceux là qui en souffrent le plus. Mais de miner la confiance du public dans une des banques centrales les plus crédibles au monde, c'est hautement irresponsable.
J'ai pas vu beaucoup de spécialistes de l'économie, de la finance dire « Hey, c'est une bonne idée d'avoir des banques centrales là qui seraient inféodées aux politiques. » Pourquoi M. Poilievre fait ça? C'est quoi son but politique, vous pensez?
Ben les gens, on sort d'une pandémie. En fait, on a encore probablement les deux pieds dedans, juste dans une certaine mesure. Les gens ont souffert beaucoup, les gens ont été pris à la maison. Puis là, c'est au moment où on enlève les masques, on sort un peu dehors, on se ramasse dans une situation où les prix augmentent de 5, 6, 7 %. Il y a une guerre qui s'ajoute à ça. Les gens, ils sont frustrés. Les gens, ils sont en colère. Les gens sont tannés de souffrir. Puis c'est vrai pour moi, pour vous, puis pour beaucoup de gens. T'sais. Mais moi, je pense que il faut pas tomber en politique dans la facilité d'aller utiliser, attiser, empirer la colère des gens pour aller chercher des votes. Et je pense que c'est une très mauvaise idée. Puis moi, ma lecture des événements, bien que je ne m'ingère pas dans la course conservatrice, comme vous voyez bien là, moi, je pense que c'est pas responsable de faire ça. Il y a des façons saines de faire de la politique. Moi, je suis allé en politique, là, c'est tout nouveau, parce qu'on en a des idées. On a le droit d'avoir des désaccords. Mais il y a des lignes à pas franchir, puis je pense que M. Poilievre, en tout cas, il est très proche de la ligne, ou bien il l'a dépassé.
OK, parlant de lignes à ne pas franchir, là, tantôt, j'ai regardé votre fil Twitter, vous avez recadré votre collègue libéral Pablo Rodriguez, qui a dit que le Bloc est en train de se radicaliser parce que au Bloc, vous avez critiqué les députés libéraux fédéraux qui ont marché avec la communauté anglophone contre le projet de loi 96. Qu'est-ce qu'il y a de mal à exprimer son point de vue là-dessus?
Ben, c'est pas la question nécessairement d'exprimer son point de vue, là. C'est que depuis un an et demi, les libéraux là, se lèvent en chambre et se posent comme ceux qui la défendent la langue française. Là, il y a un projet de loi sur la réforme des langues officielles qui est clairement une demi-mesure, là, où, par exemple, dans des entreprises comme le CN, comme Air Canada, on va leur dire, ben, écoutez, choisissez entre les deux langues officielles. Puis, pour moi, c'est une évidence que dans ces entreprises-là de compétences fédérales, le choix de ces entreprises-là, il est fait. qu'il faut appliquer la loi 101 aux entreprises de compétence fédérale. Moi, je trouve ça incohérent d'aller dire à Ottawa qu'on défend la langue française et le lendemain d'avoir à peu près tout le caucus montréalais des libéraux dans la rue pour contester la loi 101 qui devrait être appliquée aux entreprises de compétence fédérale. C'est-à-dire, quand on est député, on représente une fonction. On est membre d'un caucus. Eux sont membres d'un gouvernement. Moi, je pense qu'il faut que ces gens-là s'élèvent au niveau de leurs fonctions et prennent leurs responsabilités.
Mais on peut craindre certains articles du projet de loi 96 sans être contre la loi 101 quand même.
Tu sais, nous, ce qu'on dit, c'est que, et on le dit à Ottawa, et c'est pour ça que moi, je n'irai pas prendre part à des manifestations pour les raisons que je viens de vous annoncer. Ça relève de Québec. C'est Québec qui doit légiférer en matière linguistique. Déjà que c'est compliqué à un gouvernement, on veut pas aller à un endroit où les deux gouvernements se lancent la balle là-dessus, où il y a de la chicane. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est à Québec de légiférer. L'Assemblée nationale, c'est une législature saine, où il y a des débats. On s'en va par ailleurs en campagne électorale, et moi, je pense que c'est aux Québécois de décider ça.
Très intéressant. Écoutez, c'est la première fois que je vous parlais, puis j'ai trouvé que vous étiez un très bon musicien.
C'est gentil.
Et vos réponses sont intéressantes.
Bon, mais on se reprendra.
Ben, on va vous réinviter, puis je viens de vous suivre sur Twitter là aussi. Là. J'espère qu'il y aura d'autres séances de trompette au Parlement.
Ben, je vais vous rendre l'appareil.
Parfait. Oui, mais je joue pas de trompette. Bonne journée.
Bye.
Jean-Denis Garon, député de Mirabel. On dit qu'il ressemble à Jean-René Dufort, hein, semble-t-il.
Il l'avait interviewé à cause de ça.
Ah oui?
Parce que les gens lui disaient, quand il faisait du porte-à-porte, qu'il se ressemblait beaucoup.
Il y a même un petit peu de la voix de Jean-René, je trouve.
Oui, mais je le trouve... Et ça va être terrible ce que je vais dire. Je vais le dire quand même. Je le trouve plus intéressant que tous les députés du PQ ensemble. Fait que c'est rendu hallucinant que
je pense qu'ils vont chercher un chef peut-être au mois d'octobre.
Je trouve que le Parti indépendantiste fédéral est rendu plus dynamique que le Parti indépendantiste provincial. C'est spécial quand même.